marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
Et voici Boris Vian et son orchestre.
Quand André Francis parlait de Boris Vian. Monsieur Jazz de Radio France vient de s'éteindre à 93 ans. Son parcours sur nos ondes aura duré près de 50 ans, avec des émissions jazz variété, jazz sur scène, jazz vivant. À la tête d'un bureau aussi, car il y eut un bureau du jazz à Radio France. N'y avait-il pas un bureau des musiques légères ? En fait, André Francis était un homme de radio si complet qu'il faisait, à partir de la radio, bien d'autres choses. Pendant 30 ans, il présenta le festival de jazz d'Antibes-Juan-les-Pins, filmé pour la télévision par Jean-Christophe Averty. Il fut le directeur artistique d'autres festivals, à Château-Vallon ou à Boulogne-Billancourt. Tel artiste rare, telle combinaison unique d'artistes, se produisait-il sur les scènes qu'il animait, il se débrouillait pour les enregistrer en studio. Il était, à lui seul, une maison pour le jazz, avec ses pièces de réception où se produire, sa cuisine où discuter interminablement et ses couloirs de circulation. Il n'était pas entré par effraction à la radio. On lui avait confié à ses débuts des émissions de littérature, de poésie, des documentaires. Cependant, il avouait lui-même que lorsque s'était présenté l'opportunité de parler de jazz, il avait fait valoir des compétences qu'alors il n'avait pas encore. Néanmoins, le jazz faisait déjà partie de sa vie comme de celle de tant de jeunes gens au lendemain de la Libération. En octobre 2011, André Francis avait accepté d'évoquer à la marge de l'histoire les rapports qu'il avait eus avec Boris Vian. Il était venu sans aucune difficulté, d'autant qu'il habitait un 31e étage dans une tour de l'autre côté de la Seine. « Depuis ma retraite, disait-il, je domine la maison de la radio. » Les obsèques d'André Francis auront lieu mercredi 20 février à 10h30 au crématorium du Père Lachaise.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
André Francis, bonjour.
Bonjour.
Boris Vian, musicien, c'est d'abord un musicien de jazz. Le goût pour le jazz n'ouvre pas toutes les portes de Vian. En même temps, si on ne considère pas le jazz dans sa vie, beaucoup de Vian est rendu impossible à comprendre. La passion pour le jazz, dès avant la guerre, il a 16 ans, 36, quand il s'inscrit au Hot Club.
Oui, Boris Vian, vous l'avez dit, c'est un musicien qui a été imprégné par la musique de jazz. 16 ans, moi je crois que c'était 18 ans, 19 ans, avec un concert donné au Palais de Chaillot, avec l'orchestre de Duke Ellington, qui l'a marqué toute sa vie. Mais ce qui l'a marqué aussi, c'est que pendant les années de l'occupation, avec des camarades de Ville d'Avray où il habitait, il a monté un orchestre, et un orchestre qui était de style traditionnel. Il a commencé à jouer, à s'exprimer à la trompette. Il a travaillé en autodidacte. Et il a écouté des disques, et ces disques, il a essayé de les recopier. Et il a essayé de recopier un trompettiste totalement oublié à cette époque-là, et qui était un des plus importants des musiciens blancs des années 20, c'est Bix Beiderbecke à la trompette. Et puis, avec ces groupes-là, il a fait des surprise parties, il a assisté à des concerts qui étaient quand même assez nombreux pendant l'occupation des concerts.
Parce que le jazz continue pendant l'occupation.
Le jazz a continué, dans des clubs qui terminaient assez tôt, mais il y avait des concerts à la salle Pleyel, il y avait des concerts magnifiques au cinéma Normandie, à l'Olympia et au Moulin Rouge, des concerts qui duraient 3 semaines, une semaine dans chacune de ces salles. Et je vous assure qu'on entendait de très très bonnes choses, de quoi convaincre des gens qui ne savaient pas que le jazz était une musique communicative, de la grandeur de celle-ci. Ainsi, moi-même, je savais pas ce que c'était que le jazz, je ne connaissais que l'accordéon, mais c'est pendant l'occupation que j'ai quand même découvert Louis Armstrong.
C'est pendant l'occupation que le jazz s'interpénètre avec la chanson, avec la vogue du swing. Vous étiez swing, André Francis. Ah,
j'étais
alors.
Zazou.
Ah, vous étiez Zazou?
Oui, j'avais des grands cheveux, on me les a coupés. Mais Boris aussi était Zazou, mais ça n'a pas duré, il était mieux que ça. Et ce qu'il a fait, ça a été des rencontres avec tellement de mouvements littéraires et musicaux que cet homme est au-delà et au-dessus de toutes les catégories.
Les rencontres avec les milieux littéraires, c'est dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes maintenant après la Libération et tout commence à s'entrecroiser, s'interpénétrer dans la vie de Vian. Alors, il publie Le début de l'écume des jours dans les temps modernes de Jean-Paul Sartre, à qui il est très lié. Et il a déjà publié Quand ce reportage de la radio vient le voir, j'irai cracher sur vos tombes sous le nom de Vernon Sullivan. Alors là, on n'est pas au Lorientais, on n'est pas au Tabou, on est au Club de Saint-Germain-des-Prés.
Le Club Saint-Germain-des-Prés, conservatoire de musique moderne. Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux de J'irai cracher sur vos tombes, j'ai nommé M. Boris Vian. Aux surprises, je m'attendais à voir en le rencontrant un personnage de l'air satanique. Je trouve un doux jeune homme blond, au teint laiteux, à l'œil candide.
Pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour vos exercices musicaux? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz.
Oui, ça c'est une de mes manies, mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public. Parce que si vous prenez la Bastille, par exemple, à la Bastille, si vous jouez autre chose que de l'accordéon, vous vous faites tuer. Dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des sambas, vous vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain-des-Prés.
Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal?
Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendu.
Ah, si j'avais la voix très grande, j'aurais bientôt deux fois 50. Ah, si j'avais deux fois 50, j'aurais bientôt trois fois 50. Ah, si j'avais trois fois 50, j'aurais bientôt quatre fois 50.
Quand c'était là, la chanson qui servait de générique au concert, au Tabou, il ne l'a pas repris lorsque c'était au Club Saint-Germain. Le Club Saint-Germain, c'était beaucoup plus chic. Et le public qui venait, c'était pas pour s'amuser, c'était simplement pour se montrer, pour montrer du doigt les gens qui s'y trouvaient, les gens sérieux, les gens qui avaient derrière eux une longue histoire. Fréquenter les grands existentialistes, les apprécier, les admirer, et puis plus ou moins les regretter, parce qu'ils ont été un peu envahissants sur sa propre vie. Les surréalistes, c'est là qu'il a commencé à réfléchir sur une nouvelle forme de littérature qui était la science-fiction, le roman noir américain dont il en a traduit plusieurs, et puis il est arrivé avec d'autres amis à vouloir donner un sens nouveau à ce qui s'appelle la pataphysique.
Alors on va y venir, mais arrêtons-nous au thème du 1 franc 50, récurrent. Vous dites c'est le générique, l'emblème de Boris Vian. Ça veut dire qu'il joue en amateur, parce qu'il a un métier, il est ingénieur de centrale, il travaille au début
à
l'AFNOR, l'agence de normalisation.
Ce qu'il avait à normaliser, c'était la verrerie et le papier, vraiment c'était pas passionnant. Et c'était pas si bien payé que ça, ce qui fait qu'il a été forcé de se chercher d'autres moyens. Jouer du jazz au Tabou, ça rapportait rien du tout, le monde était entre copains, et on se posait des questions sur comment est-ce qu'on va joindre pour les fins de mois, et si son adaptation de la chanson Whispering est devenue en français Si j'avais 3 francs 50, c'est une chanson qu'il a certainement chantée tout le long de sa vie, parce que s'il a gagné beaucoup d'argent, mais énormément d'argent, avec un roman qui a fait scandale, par la suite, ce qu'il a fait de meilleur, ce qui lui tenait le plus au cœur, ça a été difficile, ça ne rapportait pas.
J'irai cracher sur vos tombes, Vernon Sullivan. Après, il va garder le pseudonyme pour d'autres textes, pas nécessairement aussi bons. Ça vient des États-Unis. Vous parliez de la science-fiction qu'il passionne, dont on voit des traces dans sa peinture, parce qu'il peint aussi. Ça vient des États-Unis. Et alors, il aime le jazz noir tel qu'il reparaît, puisque la Libération est intervenue et que l'accès aux disques américains est beaucoup plus facile, et l'accès aux vedettes américaines. Alors, il avait vu Duke Ellington dès 1939, et puis en 1948, vous avez tenu à ce qu'on entende cet enregistrement. Ce sont les premiers festivals de jazz en France avec Dizzy Gillespie.
Mmh.
passé là un moment de calme dans un concert qui fut absolument un maelstrom, parce qu'on n'avait jamais entendu, mais c'est pas le très beau solo de saxophone alto qui peut nous en rendre compte, mais c'était sur Things to Come, c'était une arrivée de section de trompette, mais phénoménalement renversante. Et la même année, le premier festival de jazz organisé au monde, quelques jours auparavant, s'était déroulé à Nice, avec sous l'égide du Hot Club de France de Monsieur Panassier, qui était idéologiquement son ennemi absolument intime. À Nice, il y avait Louis Armstrong, il y avait Claude Luther, il y avait Milton Mesmero, des musiciens très traditionnels, certains géniaux comme Armstrong, d'autres discutables. Et à Paris, l'ennemi
Vian.
Charles Delaunay, non pas
de, l'ennemi de Vian. Charles Delaunay, oui, qui était aussi au jazzot.
L'ennemi du Hot Club de France, qui était traditionnaliste, Charles Delaunay, avait monté un concert avec un orchestre qui était en tournée en Suède. C'était celui du trompettiste Dizzy Gillespie, un des créateurs du style bebop avec Charlie Parker, qu'on entendra 2 ans plus tard à Paris. Et le choc a été mais phénoménal. Heureusement, ça a pu être enregistré par la radio, la nôtre.
Qui était... Parce qu'André Francis avait déjà fait ses débuts à la radio.
Oui, mais enfin, on m'a permis de faire beaucoup de choses et de rendre service aux musiciens de jazz. Je remercie la radiodiffusion française, l'ORTF et le reste. Ça, c'est magnifique. Et on ouvrait nos oreilles, on ouvrait nos antennes à tout ce que l'on pouvait trouver d'original et de nouveau.
Alors, continuez sur le combat de titans.
Boris est venu plusieurs fois participer à une émission qui était sur les antennes bien limitée, c'était 2 fois par semaine du Club d'essai, mais on avait une émission, le Club du Jazz, où il venait défendre ses positions avec d'autres grands critiques de l'époque, c'était Franck Thénault, c'était André Oder, et je vous assure, il se passait vraiment des informations, il y avait des échanges, certains étaient plus avant-gardistes, d'autres beaucoup plus recherchaient plus dans le domaine de la musique des formes qui puissent être universelles. Mais pour ce qui était de la recherche de la sensibilité de la communication par le domaine rythmique du swing, Boris était un des plus ardents.
Il disait les Noirs ont toujours raison quand il s'agit de jazz.
Il avait peut-être un peu tort parce que à la fin de sa vie, il n'a pas été sensible à des formes de musique extrêmement importantes que l'on trouve au départ chez un musicien qu'il aimait beaucoup, c'est Miles Davis, mais le jazz cool, ça ne l'intéressait pas, les musiciens de la côte ouest, ça ne l'intéressait pas, on s'est disputé pour ça, mais il en a tellement dit de bien pour d'autres musiques, on ne va pas lui en tenir compte.
Alors on a publié 2 volumes de la Pléiade avec ses œuvres romanesques, d'autres textes. On les trouve encore, les chroniques de jazz de Boris Vian, qui l'écrivait pour Jazz Hot ou même pour le quotidien Combat.
Pendant 10 ans, il a écrit régulièrement, sauf je crois 10 fois tous les mois, une chronique de jazz, une chronique journal de presse, qui était d'une brillance étonnante, qui était drôle, qui était amusante, qui était méchante, qui était généreuse. Enfin, toutes ces qualités étaient réunies là. Et il l'a fait sans être payé, alors qu'il avait vraiment besoin souvent d'être aidé. Et tout cela a été réuni dans ses œuvres complètes, éditées par Fayard à partir de 1999. Il y a 15 volumes. Sur ces 15 volumes, il y en a 3 qui sont consacrés à la musique de jazz, à ses critiques dans les différents journaux auxquels il a participé. Mais dans la Pléiade, il y a quelques lignes pour dire qu'il a été aussi critique de jazz. Ben, ça me gêne quand même beaucoup.
Vous le voyez écrire ses chroniques, il paraît qu'il venait le soir ou le matin très tôt, et d'un geste, il écrivait.
À la revue de Jazzot, il se mettait sur un coin de bureau et en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, mais quel que soit ce qu'il avait à traiter, avec une facilité mais absolument déconcertante, je n'ai jamais vu quelqu'un écrire avec autant de facilité, de légèreté et d'esprit. Ça commençait, s'il n'avait rien à dire, ça commençait, c'était très drôle. Et à la fin, peut-être quelquefois, il y avait 2-3 pleurs sur le développement qui n'était pas celui qu'il souhaitait, mais c'était fait avec une telle légèreté.
Surchargé d'activité, il participe à d'autres émissions de radio que les vôtres, André Francis.
Non, malheureusement.
Des émissions à tonalité politique, parce que la 4e
République suit son cours et Boris Vian, qui n'a pas vraiment la tête politique, la commente dans ses crises ministérielles à sa manière.
Improvisation par Boris Vian et son orchestre. Sujet, étude analytique des bagarres à la chambre. Changement de gouvernement. Les projets sont merveilleux et ils plaisent. Ils sont adoptés à l'unanimité. Réaction sur la droite. Réaction sur la gauche. Décision gouvernementale. Mais le peuple français ne marche plus. Il boite.
En fait, Boris Vian avait imaginé un traité de civilité politique.
Pas exactement, c'est-à-dire que pour répondre à un ouvrage de Jean-Paul Sartre, qu'il admirait et qu'il redoutait, et qui était consacré à une étude morale de la société, il a commencé et il y a travaillé pendant toute sa vie. Il n'en reste que des extraits, mais des extraits qui pèsent lourd. Un traité de civilité, de respect les uns par rapport aux autres. C'est très difficile à lire. Ça n'a pas été édité comme ça le mériterait. Donc, il y a encore des choses à découvrir de Boris Vian.
C'est surtout très difficile à respecter en politique. Boris Vian, l'ingénieur qui avait l'apparence anarchiste, rêvait en fait peut-être d'un conseil des sages qui prendrait les bonnes décisions à l'image de la docte société qu'il rejoint au début des années 1950 et dont il deviendra satrape et promoteur de l'ordre de la grande gidouille.
Le collège de pataphysique est dominé par le curateur inamovible qui est le docteur Fostrol. En dessous du curateur inamovible se trouve un vice-curateur qui a droit au titre de sa magnificence.
Hé, monsieur !
Hein ?
Explication.
Des explications sur quoi ?
La science.
La science de quoi ?
La pataphysique.
Vous voulez savoir ce qu'est la pataphysique ?
Oui.
Définition. La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
Seul le collège de pataphysique n'entreprend pas de sauver le monde.
Faut rigoler.
On va passer maintenant à d'autres versants de l'œuvre de Boris Vian. Henri Salvador a été peut-être le premier à l'interpréter en chanson, parce qu'il va faire de plus en plus de chansons, Boris.
Au cours de sa carrière, il en aura fait, je crois, 482 qu'on a édités sous diverses formes, mais il en a écrit bien plus qui ne sont pas encore mis à la disposition du public, ne serait-ce que toutes celles qu'il a mis en place avec Henri Salvador. Ils ont passé des nuits ensemble à fabriquer. Toutes les 20 minutes, est-il dit dans un ouvrage qui est consacré à Boris, ils écrivaient une nouvelle chanson. Et compte. En tout cas, il y en avait tout ce que l'on veut. Et avec Henri Salvador, ça a été des chansons souvent parodiques où on a voulu quelquefois dire que Boris Vian avait introduit en France le rock'n'roll, mais c'est le contraire. C'est pour se foutre du rock'n'roll, qui est une musique qui ne fait que se répéter depuis 40 ans, qu'il a écrit des faux rock'n'roll avec énormément de vivacité, de méchanceté, de drôlerie.
Alors, il y a ces chansons parodiques et relaxes, oui, pour reprendre un titre qu'il aimait bien. Il y a aussi les chansons plus violentes, antimilitariste, et il disait lui pro-civil.
Oui, il a raison. Mais il a eu énormément, parce que à partir du moment où il a commencé à composer des chansons. C'est le moment où il a travaillé à la maison Philips, à la maison Fontana, pour s'occuper et des rééditions de disques de jazz, là il était le virtuose, et pour aussi s'occuper des chanteurs de variété. Et vous voulez faire chanter les autres, mais est-ce que vous ne chantez pas vous-même, lui a demandé Canetti, qui était le directeur général pour le domaine des variétés chez Philips, et qui était également le responsable d'un magnifique petit théâtre de chansons à Montmartre. Et ben oui, j'ai ces chansons, voulez-vous les écouter? Il lui fait entendre, il trouve ça excellent, mais il dit c'est pas suffisant de me les chanter, il faut les chanter devant le public, vous allez passer tous les soirs et dans mon théâtre de Montmartre, et puis on essaiera de vous faire entendre également dans un autre lieu qui se trouve sur la rive gauche. Et pendant près de 8 mois, Boris a vécu un calvaire. Parce que d'une part, il n'était pas chanteur de profession, il a fait tout ce qu'il fallait pour poser sa voix, pour se mettre en place, mais aussi pour avoir une tenue en scène à une époque où Brassens venait de débuter, il n'allait pas se mettre avec une guitare pour faire la même chose. Donc il était un petit peu sévère dans sa présentation et le public n'appréciait pas beaucoup. Et puis il a écrit cette chanson absolument magnifique, qui a été créée en premier, non pas par lui, mais par...
Ah, je ne sais pas de quelle chanson vous
parlez. On parlait de la chanson du
déserteur.
Chanson magnifique, mais
c'est pas Mouloudji qui l'a interprétée.
C'est Mouloudji qui l'a créé avec une petite fin un peu différente, plus consensuelle. Et du jour où il a commencé à la chanter lui-même dans les clubs ou de la tournée à laquelle il a été amené à participer, presque un soir sur deux, il y avait une partie du public qui le huait, le sortait, quand ce n'était pas des bons Français de l'extrême droite qui voulaient lui montrer qu'il ne faut pas se moquer de la nation.
Dites-moi, c'est pas facile d'apprendre le métier sur scène, surtout quand on est discret, gentil et timide comme il l'était. C'est plus facile, si on est mathématicien, d'imaginer comment produire des chansons. Ça, il savait mieux faire.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un master, un costaud bien baraqué. Mais bourrée de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé.
Il a dû changer de vie, Boris Vian, en 51-52, ça a été une rupture importante. Vous l'avez connu, vous, André Francis, avant et après le divorce d'avec Michel, le mariage avec Ursula.
Mais pour autant que je l'ai connu, parce que je vous dis, je l'ai connu du côté Boris pour le jazz. Il était tout autre chose, et peut-être que ce qui restera, et certainement ce qui restera, c'est l'écrivain. Mais pour moi, pour autant que je l'ai connu, Boris était, il était bon, il était doux, il était serviable, il était toujours élégant, il était curieux, il était attentif, il savait écouter, vous écouter, il était alors surtout hyperactif, divisé, surmené tellement. Mais ce qu'il rapprochait de beaucoup de personnes, c'est que pour lui, l'humour était sa charité. Et l'humour, il en avait tout le temps à revendre.
Et il avait aussi l'élégance de dissimuler sa maladie, encore que on savait qu'atteint de rhumatisme articulaire, il ne pouvait plus manier la trompette, il ne pouvait plus manier non plus la trompinette, l'instrument qu'on lui avait fabriqué tout exprès.
Il a eu beaucoup de difficultés au cours de sa vie, difficultés familiales, il a divorcé, il s'est marié très jeune, à 21 ans, est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Alors à un moment, on a eu envie de changer, il a eu deux enfants, avec un enfant, il a eu quelques difficultés quand il a eu 14-15 ans, il a eu des difficultés financières tout le long de sa vie, et puis des difficultés de santé, ça extrêmement grave.
Terrassé.
Mais il le cachait, il le montrait très peu, sauf quelquefois, il a été forcé pendant 15 jours, 3 semaines, de s'arrêter, d'aller se reposer, soi-disant, à Saint-Tropez, où il écrivait des romans, où il écrivait des nouvelles.
Il est terrassé le 23 juin 59 par une crise cardiaque et la projection privée de « J'irai cracher sur vos tombes », une adaptation dont il savait qu'elle le mécontenterait.
Il nous disait « Oh oui, mais je suis malade », et on ne croyait pas à Boris, parce que les enfants ne croient pas qu'un autre enfant est malade. Et puis le cœur est une chose cachée. C'est une maladie extraordinairement discrète et élégante. Et puis un jour, Boris a dit « J'ai le cœur trop gros ».
Ce soir, j'ai mis mes ailes d'or dans le ciel comme un météore. Je pars, terre lune, j'ai quitté ma vieille atmosphère. J'ai laissé les morts et les guerres. Au revoir. Adieu.
Adieu. Magali Noël, qui fut avec René Lebas et d'autres une grande interprète de Boris Vian. C'était une rediffusion d'octobre 2011 avec une réalisation de Jacques Cigale. Les obsèques d'André Francis auront lieu mercredi 20 février, 10h30, au crématorium du Père Lachaise, salle de la Coupole.